Voix Nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Élise Gruau rencontre Daniel Flomenbaum. Ce soir, de grand-mère en fille.
Daniel Flomenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir dans votre maison à Gentilly, près de Paris, pour évoquer ensemble votre parcours à la fois personnel et professionnel. Vous êtes médecin, gynécologue et acupunctrice. Vous avez exercé dans un moment charnière de l'histoire des femmes, avant et surtout après les lois qui leur ont permis de choisir le moment de la conception de leurs enfants. Et cela a changé fondamentalement le métier de gynécologue et la perception de la féminité et de la maternité. Cependant, maîtriser la sexualité de reproduction n'allait pas forcément de pair avec l'accès à une sexualité de plaisir. À l'écoute des femmes, de leurs difficultés et de leurs pathologies, vous avez sans cesse cherché de nouveaux outils pour les aider à se soigner et à vivre pleinement. Partie d'une gynécologie qui était une médecine de la mère et de la maternité, vous avez élaboré une médecine de la femme, incluant la sexualité et la jouissance féminine. Et au croisement de la médecine chinoise, de la psychanalyse, de l'approche transgénérationnelle, vous avez réfléchi à la façon dont les femmes et les hommes construisent leur sexualité, la place qui tient la mère, la force de l'héritage ancestral, des silences conscients ou inconscients, afin d'expliquer pourquoi le plaisir et parfois même le désir ne sont pas toujours au rendez-vous des couples, provoquant des ruptures en cascade. Vous êtes l'auteur d'un livre qui reflète vos réflexions, vos années de militantisme, qui s'appelle « Femmes désirées, femmes désirantes », qui a été un important succès de librairie. Alors, à l'heure où les hommes et les femmes ont inventé une nouvelle ère de leur vivre ensemble, il m'a paru très intéressant de donner à entendre votre parole. Et au cours de ces entretiens, nous allons essayer de déployer ce parcours. Daniel Flomenbaum, vous vous êtes intéressé en tant que gynécologue, médecin, à ce moment très particulier de la conception des enfants. Et j'aimerais que vous nous racontiez les circonstances particulières dans lesquelles vous-même vous êtes née.
Alors moi, je suis née pendant la guerre. Mes parents étaient juifs polonais, cachés dans le sud de la France. Et une rumeur a circulé comme quoi les femmes juives, enceintes, ou avec des enfants de moins de 1 an, ne seraient pas déportées dans les camps. Mes parents avaient 2 filles aînées. Mon père avait perdu sa mère quand il avait lui-même 3 ans. Ma mère était en plein deuil de sa mère qui venait de mourir en 1940. Je parle de 1942. Mon père est soucieux de protéger la mère de ses filles, si bien qu'il décide de concevoir un enfant. Bon, en espérant bien sûr que ce serait un garçon. Et me voilà qui prend naissance dans cette France occupée. Et je dois dire qu'au moment où je suis née, les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote. Ça me semble important quand même et invraisemblable. Et si vous voulez, ces circonstances de conception qui sont en fait un désir partagé de mes parents de concevoir un enfant, quelles que soient les circonstances, et là on est en pleine folie humaine, témoignent l'importance de pouvoir concevoir un enfant dans le désir partagé des deux parents. C'est une force que je ressens. Je sais que je la contiens. Et elle m'a donné un élan vital qui, je pense, ne m'a pas quitté. Et donc, j'ai toujours milité pour que les enfants soient conçus dans un désir partagé des parents, qu'il soit désiré en mots avant de s'incarner dans un corps.
Donc vous êtes né en 1943 dans le Maquis à Véronnet.
Oui.
Et cette décision, dans ce contexte si dangereux, c'était aussi faire un enfant qui allait sauver la famille, sauver
la... C'était le rayon de soleil qui allait les dégager de la folie humaine. Hein, je suis née pour sauver ma mère et mes sœurs. Je suis née pour sauver les mères, les enfants, pour leur permettre d'être vivants. Et d'être vivants, c'est pas à n'importe quel prix, c'est d'être vivants dans des bonnes conditions. Et pour moi, des bonnes conditions, c'est d'y mettre de la conscience, de la parole, de l'accueil, du désir, quelles que soient les circonstances.
Et Danielle Faumann-Baum, vous êtes une petite fille qui naît après dans une fratrie, dans une sororie, où il y a déjà deux sœurs.
Voilà, j'ai deux grandes sœurs de 11 et 15 ans, mes aînées.
Et vos parents, donc, sont des Juifs qui ont émigré en France. Dans quel contexte, depuis combien de temps étaient-ils en France au moment où la guerre...
Est déclarée. Ils se sont connus en France et ils sont chacun de leur côté venus dans les années 1920. Mon père a été propulsé par son propre père pour quitter la Pologne au moment de son service militaire. Il y avait une grande vague d'antisémitisme à l'époque et mon père étant un courageux, honnête, avait déjà défendu un copain qui s'était fait traiter de sale juif et son père lui a dit « Tu vas te faire tuer, il faut que tu partes ». Et donc il est parti pour rejoindre la famille américaine de Pologne. Et quand je lui ai demandé comment il avait pris ce départ, il m'a dit qu'il était aussi content et soulagé. Et son père, en partant, lui a dit « Pour tes enfants, l'étude ». Et voilà mon père qui, après un périple incroyable, se retrouve à Paris. Comme son père est chaudronnier, il devient carrossier, un métier qu'il a absolument adoré. Et à l'époque, on prenait une tôle et on fabriquait la carrosserie de la voiture. Et il rencontre ma mère à l'hôpital Rothschild parce que sa propre mère, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, est sage-femme à l'hôpital Rothschild et elle sert d'interprète à ce jeune Polonais qui parle mal le français et qui souffre d'une angine incroyable. Et mon père rencontre une famille en rencontrant et sa future belle-mère. Et il y a des filles dans cette famille, et il y a ma mère, et ils tombent amoureux, et les voilà dans une aventure où ils construisent leur famille.
Vous êtes née après ces deux sœurs aînées de 11 ans et 9 ans de plus que vous.
Ah oui, alors ça veut dire que je connais très bien la fonction maternelle. Vous savez, moi j'ai pas manqué d'amour, j'ai manqué d'instruction. J'ai été portée par les bras d'une mère. Quand ma mère pouvait plus me porter, c'était une sœur. Quand une sœur pouvait plus me porter, c'était l'autre sœur. Donc, je veux dire, j'ai été soutenue, j'ai été aimée, j'ai été nourrie affectivement. Et je trouve que j'ai manqué de paroles qui me permettait de me propulser dans une vie adulte. J'étais en quelque sorte considérée pour rester un bébé à vie. Une petite fille qui correspondait aux demandes des adultes et je croyais que c'était ça la vie.
Et après la guerre, où votre famille est-elle allée ?
Alors, ils sont revenus à Levallois. Mon père avait son atelier de carrosserie.
Et là, vous avez quel âge donc,
Alors, j'ai 2 ans. Hein, j'ai 2 ans à mon retour. Je vais à l'école maternelle, je vais à l'école communale à Levallois. Et mon père achète un garage dans Paris. On déménage quand j'ai 7 ans. Ma sœur aînée se marie à ce moment-là. Ma mère s'écroule puisque sa fille aînée s'en va. Et je me retrouve avec une maman qui a une ménopause très difficile et où je suis le soutien maternel, ma deuxième sœur commençant ses études de médecine.
Et donc très tôt, vous avez eu cette conscience de soutenir votre maman qui était chagrinée du départ de cette sœur?
Et puis après, elle était effondrée. Avant, elle était effondrée de la mort de sa mère, surtout. Hein. Elle a jamais fait le deuil de la mort de sa mère. J'étais consciente. Ben non seulement j'étais consciente, mais c'était pour moi ça la vie. Hein. La vie, c'était de soutenir. Et ben de soutenir ma mère, d'être vraiment dans l'assistanat. Hein, l'assistanat était pour moi l'évidence de la vie. Et je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée en faculté de médecine sans y rien comprendre.
Et votre sœur aînée avait fait un parcours elle-même en médecine?
Alors, c'est pas ma sœur aînée. Ma sœur aînée a épousé un étudiant dentaire qui est devenu dentiste. Ma sœur aînée n'a pas été soutenue dans ses études. Ma sœur aînée a rencontré son mari. Il y avait des classes de rattrapage après la guerre. Les ados qui n'avaient pas pu être scolarisés passaient le bac. Ils se sont rencontrés dans les classes de rattrapage du bac. Mon beau-frère était un rescapé d'Auschwitz. C'était un déporté. Qui, parce qu'il était si jeune et si fort, a pu réchapper aux atrocités. Et en étant complètement branché à sa propre mère. Et ma sœur est devenue très rapidement l'assistante de son mari. Je veux dire, mes parents n'ont pas saisi l'importance de soutenir leur fille aînée dans ses études et ça a été un grand regret pendant une très très grande partie de sa vie. Ma deuxième sœur a fait des études et elle a fait des études de médecine, elle a fait des études de psychiatrie. Elle a eu du mal à... Elle a souffert pendant ses études. Moi, je comprenais pas pourquoi c'était si difficile pour elle. Et je pense que je lui ai emboîté le pas parce que je n'avais jamais réfléchi à ce que je pouvais faire plus tard. Si j'avais été dans mon désir personnel, je crois que j'aurais fait de l'ethnologie, de l'anthropologie, des langues, des sciences naturelles. Mais vraiment, je me suis retrouvée comme téléguidée en faculté de médecine sans rien y comprendre. Et ces études ont été très difficiles. Très difficiles parce que je les trouvais très inhumaines. Il fallait tout savoir, il fallait rien comprendre et tout savoir. C'était les années... Moi, j'ai passé un bac philo... Et la dernière promotion, avoir le droit de faire médecine en ayant fait philo.
J'aimerais revenir sur ce climat qui entoure votre enfance et l'exemple de cette sœur qui fait médecine et qui entre en psychiatrie. C'était peu commun à l'époque, au début des années 60, une femme qui exerçait cette profession de psychiatre. Et vous-même, je crois que vous avez eu une expérience précoce du bénéfice du soin psychique.
Ben ça, c'est grâce à elle, bien sûr.
Et qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ah oui. Je refais pipi au lit vers mes 8 ans, et très peu de temps après le mariage de ma sœur aînée. Et on parlait comment j'assistais ma maman. Alors c'est vrai que si je deviens une petite fille qui fait pipi au lit, c'est parfait. Je deviens vraiment très petite. Et voilà que ma sœur fait un stage de psychiatrie, elle était externe, je crois, chez Madame Aubry. Le service de Madame Aubry, c'était un service d'avant-garde, la Vandolto, je dirais.
Génie Aubry.
Génie Aubry. J'ai mis au bris et donc ma sœur nous emmène, ma mère et moi, en consultation. C'est une dame un peu autoritaire, rigide, qui me dit que je vais vraiment bénéficier du travail que je vais faire dans son service. Et c'est vrai. Je fais une... Alors ça, c'est à 11 ans que je consulte. Je fais une psychothérapie avec Monsieur Aubry. Non, Monsieur Favez Boutonnier, Monsieur Favez. Et me voilà qu'au bout de 3 séances de psychothérapie, sans que je comprenne strictement rien à ce qui m'arrive, j'arrête de faire pipi au lit. Et j'aime mieux vous dire qu'à 11 ans, c'est agréable d'arrêter de faire pipi au lit.
C'est quelque chose que vous avez, qui avait duré pendant 3 ans ?
Eh bien, pendant 3 ans. Alors, c'était variable. Hein, c'était, c'est, mais c'était, c'est très, très handicapant pour une petite fille. Hein, on n'a pas envie d'être un bébé. Hein, c'est humiliant, c'est désagréable. Alors bon, j'ai eu des parents quand même très tolérants, un peu dépassés par la situation. Mais j'étais la troisième après toute l'histoire. Je n'ai pas été du tout violentée parce que je faisais pipi au lit, mais effectivement, c'est humiliant. Et surtout, je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Alors, j'ai pas mieux compris, hein. En arrêtant et ma thérapie, je n'ai pas mieux compris. Mais quel soulagement et quel bonheur. Et c'est vrai, et déjà, bah, la preuve d'un traitement par la parole qui me fait arrêter de faire pipi au lit. C'est quand même magistral.
Et donc, grâce à ce climat de cette grande sœur qui découvre les bénéfices de la psychiatrie, de la réflexion psychothérapeutique...
Ben, l'importance du psychisme, l'importance du rôle de l'esprit dans nos vies et dans le soin, ce que je ne retrouve pas du tout dans mes études médicales au début... sauf un chef de clinique absolument remarquable. À l'époque, dès la première année de médecine, on allait à l'hôpital. Et il y a eu un chef de clinique absolument remarquable qui nous faisait saisir. Je m'étais retrouvée en endocrinologie, qui nous faisait saisir le poids des émotions, le poids des sentiments, le poids de l'histoire. Et si vous voulez, moi, je me suis embarquée dans ces études en militant justement, pour que les malades ne soient pas des numéros. Vous savez, à l'époque, les dortoirs à l'hôpital, il y en avait 60 ou 80. Moi, j'ai connu...
Racontez-nous un peu ce climat des années 60, comment s'exerce la médecine et comment vous allez entrer en réaction contre cet exercice de la médecine.
Si vous voulez, c'est une réaction pour permettre aux malades d'être considérés... comme des humains, qu'ils aient des sentiments, des émotions, une histoire. Hein, comment la médecine ne peut pas se résumer aux soins d'une maladie stricte, ou surtout comment elle ne peut pas se comprendre. Donc comment les circonstances de nos vies influencent notre état de santé. Si vous voulez, moi j'ai souffert d'être envahi de maladies et de pathologies, alors que j'avais aussi envie d'entendre parler de la santé. Hein? Et ça a été... on s'est retrouvé une bande de copains à militer pour une amélioration des conditions de soins. Ça s'appelait à l'époque la MINO. Médecine, on était minoritaire et on était face aux mandarins. Alors c'est sûr qu'en 68, quand tout ce courant arrive, c'est comme si le militantisme pour lequel on se battait portait ses fruits. C'était merveilleux. Hein, la parole se mettait à circuler. La considération d'une humanité différente commence à poindre et quel soulagement, hein, quel soulagement de pouvoir valider nos pensées. L'ambiance était incroyable d'effervescence et de, j'ai envie de dire, oui, d'excitation de la vie. Si vous voulez, c'était nous, les enfants du baby-boom, on était en pleine forme. Moi, j'étais sûre qu'il n'y avait plus de racisme et d'antisémitisme dans le monde. C'était une évidence, après la folie qui s'était passée. Mais comment on pouvait encore être antisémite ou raciste? C'était impensable pour moi.
Et cependant, Daniel Schoenbaum, dès les années 60, vous avez aussi conscience d'injustices qui perdurent dans le monde. En 1961, après la tragédie de Sharon, vous vous engagez au lycée comité antifasciste.
Eh bien, il y avait des comités antifascistes dans les lycées à partir de la seconde, la première. Et moi, j'étais en philo à ce moment-là.
Donc la guerre d'Algérie, c'était présent quand même dans vos esprits, dans cette époque.
Ah bah tout à fait. Et puis ma sœur, qui avait 11 ans de plus que moi, était beaucoup plus engagée. Et c'est ça, Sharon, une émotion, mais incroyable, impensable. Comment la folie humaine pouvait se perpétuer à Paris à cette époque? C'était impensable et c'était vrai. Donc, c'est ça. Ça veut dire que ce comité antifasciste, le militantisme de la en médecine fait une suite logique à cet engagement spontané. Mon père était socialiste. Lui, c'était Mendès France, hein, à l'époque. Hein. Où on donnait du lait aux enfants à 10 heures du matin. Il y avait une petite...
Pour rattraper les carences alimentaires.
Exactement, ouais. Pour lutter contre le rachitisme.
Et Daniel Schoenbaum, donc vous êtes dans vos études de médecine, vous dites un peu en pilote automatique, mais en même temps avec beaucoup d'intérêt pour ce que vous êtes en train d'apprendre, en tout cas d'engagement.
Et d'engagement, d'intérêt, moi je suis débordée, j'ai failli arrêter médecine, c'était, vous savez, cette masse de choses à ingurgiter sans avoir besoin de le comprendre. Je crois que c'est toujours le cas. C'est terrible. Et alors, on est en pilote automatique, on travaille. On ne peut pas sortir, on ne peut pas... Moi, j'avais l'impression de passer complètement à côté de ma vie. J'étais invitée à sortir et j'étais tiraillée. Ma sœur avait eu tellement de mal à faire ses études. Je voulais que ce soit plus aisé pour moi. Enfin, si vous voulez, je n'osais pas vivre ma vie de jeune femme débutante. Et pourtant, j'étais joyeuse, j'aimais danser, j'adorais chanter. C'était aussi une vie très vivante. Submergée... avec une perte de sens de ses études. Et pourtant...
Et comment vous vous raccrochez au sens?
Eh bien, je démarre médecine et je sais que je serai gynécologue.
Voilà.
Hein, ça, alors... Et alors, ce que je fais fondamentalement, c'est que je prolonge la vie de ma grand-mère sage-femme, que je n'ai pas connue.
Hein? Et est-ce qu'à l'époque, vous en avez conscience?
Absolument pas. Pas du tout. Hein? Vous savez, j'ai conscience de pas grand-chose à l'époque.
Et comment vous choisissez d'être gynécologue? Vous dites que c'est une évidence.
Ah, une évidence, je ne choisis pas, je le sais. Je sais que je serai gynécologue. Hein? J'ai des copains, à chaque fois qu'on fait un stage, ils changent de spécialité ou tout ça. À moi... Tout de suite, direct, je sais que je serai gynécologue. Et très vite, je me suis orientée aussi dans les stages, hein, pour pouvoir... je n'ai jamais fait de cardiologie, je n'ai jamais fait de
comment ça s'appelle ? D'orthopédie.
Je n'ai jamais fait de dermatologie. Et je ne savais pas à quel point ça allait me manquer de ne jamais avoir fait de dermatologie.
Et pourquoi cette évidence? Donc la gynécologie, c'est accompagner les femmes?
Oui, c'est continuer, entre guillemets, ma mission de vie, je dirais maintenant. Hein, maintenant, je pourrais dire ça, que je continue les circonstances de mon arrivée sur Terre et je prolonge le militantisme de ma grand-mère sage-femme, où il est important que les femmes puissent mettre au monde des enfants désirés, dans le partage avec le père. Ça, c'est mon d'emblée, je sais, j'ai presque envie de dire, je le sens. Moi, je sens que j'ai été désirée par mes deux parents. C'est une force que je contiens et qu'il me semble important de pouvoir contenir dès le départ de sa vie, parce que ça donne d'emblée un droit à exister. On a une sécurité de base, comme le disait Françoise Dolto. Donc, je continue à expliquer pourquoi il est si important d'être conçu en mots, dans la parole, avant d'être construit dans un corps. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'esprit, de la force de l'esprit. Au début était le verbe. Eh bien, nous voilà dans la capacité de désirer se prolonger nos lignées, faire une famille, enfanter. Et cet enfant, il est le fruit de deux personnes. Il est le fruit d'une femme, il est le fruit d'un homme. Et il est, je trouve, poli pour l'enfant à venir d'avoir été conçu dans ce partage pour pouvoir, je dirais tout simplement, être plus fort dans la vie. Alors tout se répare, hein, tout se répare et toutes les difficultés de conception, de naissance et même de petite enfance. Le travail est là, la vie est là aussi pour pouvoir réparer tout ce que l'on n'a pas eu, et ça je le sais aussi. Mais je me dis, si on peut avoir un bon départ dès le départ, et de toute façon il y a beaucoup de choses à faire. Hein.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruau avec Daniel Flomenbaum. À Voigny, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À Voigny s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.